parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Voilà, 19h passé de quelques secondes à la pendule de la plus rebelle des radios, comme tous les jeudis, il est l'heure du Canu Info du jeudi, équipe animée bien évidemment par Delphine.
Bonsoir, nous sommes donc bien un jeudi, hein, n'est-ce pas Laurent?
J'ai dit autre chose, non?
Non, tu l'as dit deux fois, ah c'est ouais, tout.
C'est pour être sûr. Et donc Laurent, le programme de ce jour, après le petit édito que je vais vous faire juste après, nous parlerons un petit peu d'Ouzbékistan, nous parlerons encore un petit peu de sport et des JO, et des suites de ces JO. On parlera un petit peu du Gabon, un petit peu du Venezuela. Ensuite, on parlera un petit peu des pesticides et du capitalisme, de l'Australie. On ira faire un petit tour du côté des choses et éléments radioactifs et de l'énergie. Et puis, nous parlerons des profiteurs, un petit info sur Lyon. Et voilà, ce sera un petit peu le programme de ce Canu Info de ce 1er septembre 2016. Mais comme disait Coluche, on est cerné par les cons, mais on ne se rend pas compte à quel point. Malheureusement, cette phrase est toujours d'actualité en cette semaine de rentrée. Rentrée scolaire aujourd'hui, rentrée politique, rentrée littéraire, rentrée musicale, rentrée sportive ou je ne sais quoi d'autre. Tout le monde, vraisemblablement, fait sa rentrée. Donc, on va commencer par quelques petits cons qui m'ont énervé cette semaine. Le premier con de cette rentrée, c'est le politique François Fillon. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy a évoqué, vous avez peut-être entendu, je cite, le partage de culture à d'autres peuples pour désigner les années de colonisation, avant de déclarer que la France n'avait pas inventé l'esclavage. Il se présente donc comme un beau révisionniste avec la ferme intention de faire apprendre aux bambins, s'il était élu bien évidemment, sa vision fausse de l'histoire de France et de la colonisation en oubliant la réalité réelle, donc la réalité de la colonisation, c'est-à-dire la destruction de la culture du colonisé, les souffrances, le sang versé par les populations colonisées, j'en passe, et des pires encore. Quant à l'invention de l'esclavage, c'est pas parce qu'on n'a pas inventé quelque chose qu'on doit l'utiliser, surtout quand c'est l'esclavage, et la France a bien participé très activement à l'esclavage, et donc à la mort, à la manipulation, à la souffrance, à la destruction de la vie de dizaines, de centaines, voire plus de milliers de personnes, avant d'en abolir enfin et l'idée et la pratique. Ensuite, il a poursuivi, droit dans ses bottes, en disant, je cite toujours, « La France, c'est 15 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. Bien évidemment, faire croire que l'histoire de France commence à Clovis, c'est, plus d'être faux, c'est surtout se réapproprier le discours de l'extrême droite qui essaie de nous faire croire depuis pas mal de temps que nos racines seraient chrétiennes, alors que l'histoire du territoire français et de sa population est bien antérieure avant l'invasion puis l'installation de la religion chrétienne sur le territoire, sur un territoire qui a d'ailleurs pris des frontières très variables hein, au cours du temps, qui a même existé une époque où il n'y avait pas de frontières, mais c'était il y a bien longtemps. Finalement, on comprend mieux pourquoi Fillon plaît à l'extrême droite. On l'a vu aujourd'hui, puisqu'il a reçu le soutien des homophobes de la Manif pour tous. Alors, poursuivons sur notre belle lancée avec le deuxième con de la semaine et de la rentrée, le chanteur Renaud, ou ce qu'il en reste en tout cas. En effet, il a encore récidivé en déclarant, je cite une fois de plus, « Fillon, c'est un mec bien, honnête, je voterai pour lui s'il gagnait la primaire ». Bon, après avoir vomi, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc oui, après avoir déclaré son amour des flics dans son dernier exécrable disque, maintenant il déclare sa femme aux hommes politiques racistes, xénophobes et réactionnaires comme Fillon. C'est quand même pas très beau de vieillir. Je pense qu'on devrait le faire taire, je sais pas sous quelle manière, peut-être le mettre dans un asile et qu'il passe son temps à jouer aux cartes, ou lui proposer de se remettre à boire, puisque quand il buvait, il sortait beaucoup moins de conneries, comme quoi l'alcool c'est peut-être bon à la santé intellectuelle, à défaut d'être bon à la santé tout court. En tout cas, sur Renaud, la privation d'alcool a des effets négatifs, et il devient de droite d'ailleurs, quand on boit pas finalement, c'est peut-être une bonne raison pour boire.
Moi, j'avais peut-être une proposition plus hygiénique, lui proposer de réécouter ses vieilles chansons. Ouais. Peut-être que ça lui rappellerait des choses et des souvenirs, ouais, des concepts.
On peut espérer, effectivement, vu les textes intéressants qu'il a pu écrire quand il était plus jeune. Bon, allez, passons maintenant à un con un petit peu plus jeune. Je vais venir autour et sur David Douillet. Alors, je ne vais pas me battre contre lui parce que je vais perdre. Alors, on savait que ce sportif, Monsieur Douillet, qui était légèrement mou du bulbe et homophobe, hein, on rappelle sa maxime, je cite encore, « Je suis misogyne, tous les hommes le sont, seuls les tapettes ne le sont pas. » Bon, bienvenue à Radio Canu, où les hommes sont des tapettes, puisque nous essayons, tant bien que mal, de ne pas être misogynes. Mais on apprend aujourd'hui qu'il continue quand même à plaire à ses amis politiques de droite, puisqu'il vient de rentrer dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Bravo, applaudissez. Donc après un été très sport, où son collègue, je ne sais pas si son ami sportif, Teddy Riner, a lui aussi tenu quelques petits propos homophobes, cela nous remémore quand même pas mal le sketch de Desproges où il présentait les sportifs comme des humains dont le QI n'atteint que très rarement la température anale. Effectivement, Teddy Riner et David Douillet en sont l'épreuve vivante. Bref, merci à cette rentrée à tous ces cons. La liste précédente, bien évidemment, n'est pas exhaustive, puisque vous aurez remarqué, auditeurs et auditrices, Valls, Macron, Le Pen, Estrosi et bien d'autres énergumènes n'ont pas été cités dans cette belle liste, mais ils y auraient bien évidemment leur place. Bref, merci donc de nous rappeler que Coluche et Desproges sont toujours d'actualité. Merci de nous redonner la poigne, la force, voire la haine de continuer. La lutte continue, car seule la lutte. Ben, on va commencer par parler de l'Ouzbékistan.
Mort, pas mort, vivant, pas vivant, mort, vivant, je ne sais pas bien. En tout cas, il y a des rumeurs en Ouzbékistan concernant l'état de santé du président. Et vous mettez des trucs qui clignotent tout autour du mot président. Karimov, puisque on a appris qu'il avait été hospitalisé suite à une hémorragie cérébrale samedi. C'est ce qu'a annoncé lundi sa fille cadette Lola. Les autorités ont confirmé la chose dimanche. En tout cas, ont expliqué qu'il était à l'hôpital. Mais on n'en sait pas plus.
Alors, on a appris quand même, du coup, par la même occasion, qu'il avait un cerveau. Alors qu'on n'était pas sûr jusqu'à maintenant, on pensait qu'il avait juste une moelle épinière pour bouger les membres. Et non, il était aussi équipé d'un cerveau qui fonctionne moins bien.
Alors il est plus tout à fait jeune, hein, il a 78 ans. Mais c'est vrai que c'est un peu la confusion, c'est un peu le bazar. On ne sait pas bien exactement ce qu'il en est. Alors il y a des tas de spéculations, hein, il y a des rumeurs. La presse russe, l'opposition, s'il peut y en avoir une, en tout cas celle qui vit ailleurs, explique qu'il est déjà mort, qu'il y aurait de la manipulation, que les autorités gardent le silence pour éviter la panique. Mais c'est vrai qu'il y a des signes. On est en pleine fête de l'indépendance. Hier mercredi, c'est un présent présentateur de la télévision d'État qui a lu le discours présidentiel, hein, ce qui est assez étonnant puisque d'habitude c'est le grand président qui le prononce. Il y a eu des annulations de cérémonies, de célébrations, un concert a été lui aussi annulé, donc ça laisse un petit peu beaucoup de questions. Sa fille Lola, dont sa cadette, dont il était encore proche, elle explique sur les réseaux sociaux qu'il est toujours vivant. Elle remercie d'ailleurs tous ceux et toutes celles qui envoient des messages de soutien et que ce soutien va l'aider dans sa guérison. Oui, 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 il y a des choses comme ça qui se transmettent via les réseaux sociaux aussi. Alors elle habite à Paris. Lola, elle est ambassadeur de l'Ouzbékistan à l'UNESCO.
Ah oui, il a placé sa famille un peu.
Oui. Par contre, tu sais qu'il avait une fille aînée, hein, c'est une cadette. Elle est toujours en vie, sauf qu'a priori, et pour ce qu'on en sait, parce que c'est Paris, l'Ouzbékistan, il faut tirer les infos, elle serait assignée à résidence depuis 2014. Oui, elle a été un peu rejetée. En fait, tout le monde pensait que pendant longtemps, Gulnara allait prendre la place de monsieur papa le président. Et puis, elle a été accusée de corruption. Elle en a pris plein la tronche. Globalement, elle a un peu, on va dire, pris pour les autres quand même aussi. Et donc, elle serait assignée à résidence, mais sa sœur dit qu'elle ne l'a pas vue depuis 12 ans. Donc elle ne peut témoigner de rien. Hein. Peut-être qu'elle aussi, elle est morte, vivante, on ne sait pas bien. Alors, ce qu'il faut se rendre compte de cette situation, c'est que Monsieur Karimov est quand même à la tête de l'Ouzbékistan depuis 89. 89 parce que c'était encore l'Ouzbékistan soviétique. Mais en 91, il est resté, depuis il est resté. Hein. C'est une belle démocratie, l'Ouzbékistan, je vous le rappelle. Oui, tu peux rire, tout à fait. Il est réélu.
Une démocratie à la soviétique, un peu. Il a gardé l'esprit. Hein.
Il a gardé bien, bien l'esprit. À chaque fois, il est réélu avec des scores extrêmement impressionnants à la nord-coréenne, s'il y avait des élections, sauf que c'est pas le cas. Oui, ça nous rappelle d'autres pays, effectivement, soviétiques qui ont usé des mêmes processus et d'autres pays qui, à la fin de l'Union soviétique et à la prise d'indépendance, ont mis en place des systèmes autoritaires sur le même principe. De toute façon, il n'y a plus vraiment d'opposition. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure celle qui est peut-être en exil. Alors, il y en a une à l'intérieur, mais elle est réprimée. Emprisonnée quand elle n'est pas carrément assassinée. Donc ça pose quand même cette question de qui va prendre aujourd'hui la suite. Alors vous allez me dire peut-être qu'il n'est pas mort, Delphine, ne t'emballe pas. Oui, sauf que ça sent pas bon, a priori, tout ça, et que ça risque de laisser un petit peu une guéguerre. Il y a évidemment des noms hein, qui circulent. Il y aurait l'actuel Premier ministre et puis le vice-premier ministre qui sont des rivaux, qui ne s'aiment pas du tout. Donc c'est pour ça que ça peut aussi amener quelques problématiques, non seulement politique, mais peut-être aussi d'envergure. Il faut toujours se rappeler qu'après, dans ce genre de pays, l'armée a toute sa place. Et puis, c'est évidemment un pays où la famille s'est beaucoup enrichie. Je vous rappelle qu'il y a le coton, par exemple. Je prends que cet exemple-là. Hein. L'histoire du coton, où les familles doivent aller d'une manière tout à fait obligée. Il n'y a aucun personne qui n'est volontaire en cette affaire. En tout cas, ils doivent être très très peu. Vont donc ramasser le coton. Le coton ouzbek a été pointé du doigt par pas mal d'ONG ces 10 dernières années. Donc c'est vrai que les grandes marques évitent de se fournir en Ouzbékistan. Simplement, le problème, c'est que toute la filière du coton, on la connaît pas bien. C'est toujours ce problème de la matière problème, d'où elle vient et jusqu'où ça arrive. Et est-ce qu'on en a dans nos t-shirts ? C'est toujours un petit peu le problème. Mais voilà, c'est aussi une famille qui s'est bien enrichie. Donc ce possible décès peut poser quand même des problèmes au sein de l'Ouzbékistan.
Bon, même s'il n'est pas mort, on rappelle qu'on peut continuer de gouverner en étant mort-vivant. L'Algérie démontre depuis un certain nombre d'années qu'un président quasi mort, mais un poil vivant, qui bouge une oreille ou qui cligne des yeux une fois tous les 15 jours, ça suffit pour que le pays continue à exister, politiquement en tout cas. Donc voilà, ça se trouve, on aura juste quelqu'un allongé dans un lit qui continuera de gouverner comme ça.
Oui, on aura quelqu'un qui va prendre la suite et qui fera exactement la même chose.
Oui, c'est plus probable aussi.
C'est tout à fait probable. Alors on va parler de sport, mais pas tout à fait. Effectivement, on va revenir sur les suites des JO de Rio, mais ça va nous permettre de reparler un petit peu de l'Éthiopie, puisque le 21 août dernier, Faïza et Lilesa est arrivé deuxième au marathon, au moment de l'arrivée, il a levé les bras et il a croisé ses bras au-dessus de sa tête. C'était pas juste un signe de satisfaction, c'était un signe de soutien pour l'opposition en Éthiopie. Et à cause de ce geste, il n'est pas rentré en Éthiopie, ou plutôt il avait peut-être pris la décision de ne pas rentrer, et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il a fait ce geste. Ce geste, il est fait aujourd'hui dans les rues en Éthiopie, en particulier par les jeunes, comme un signe pacifiste de rébellion, mais un signe malgré tout dans les manifestations, qui est un signe pacifiste. Ça représente les mains ligotées, hein, tout simplement. Quand l'avion est arrivé à Addis Abeba, il n'était pas dedans, c'était le lundi 22 août. Pour l'instant, on ne sait pas bien où il est. Alors, il y a des médias qui ont dit qu'il était, qu'il avait fait une demande d'asile aux États-Unis d'Amérique. Le département d'État n'a pas commenté, mais c'est a priori vers ce pays qu'il a l'intention de se rendre et de rester. Alors, l'Éthiopie, ça va pas très bien. Hein, c'est vrai que c'est un pays qui a connu un développement économique assez important. C'est presque un modèle, hein, d'ailleurs, c'est un modèle souvent vanté par les puissances occidentales. Mais il y a un régime, là aussi, autoritaire, hein, qui réprime les manifestations. Ça fait 8 mois que les gens sont dans la rue. Il y a déjà eu des centaines de morts. Alors, je vous rappelle, c'est un pays dans lequel il y a plusieurs ethnies, avec des territoires. Et là, c'est les Oromos, c'est les Amaras, excusez-moi, qui sont descendus dans la rue. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'ils se sont unis et qu'ils manifestent en même temps dans leur région respective, mais qu'ils le font, ils font des actions simultanées. Et ça, c'est très, très nouveau. Alors, les deux ethnies ont des raisons différentes à la base d'être dans la rue. Mais finalement, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans des problématiques ethniques. Ça va bien au-delà, parce qu'on a en particulier des gens jeunes qui ont marre ce gouvernement, de cet État autoritaire qui demande des libertés. Et l'État répond comment ? En tirant, hein, sur les manifestants et les manifestantes. Il y a eu des centaines de morts. Alors on a par exemple Human Rights Watch qui a recensé plus de 400 morts et des dizaines de milliers d'arrestations depuis le début de la contestation. Amnesty International nous a rapporté que le 6 et 7 août dernier, il y a eu une centaine de morts par balle, hein, c'est les policiers qui ont tiré. Et puis on parle de torture, de disparition, d'arrestation comme ça en pleine nuit dans les écoles. Il y a même des enfants qui ont été récupérés par la police dans les écoles. Là aussi, hein, c'est aussi cette année 1991, hein, qui a changé quand même beaucoup de choses. Il y a un régime autoritaire et il faut se souvenir que ce sont les Tigréens qui ont viré la dictature en place, et ils se sont placés comme l'ethnie du pouvoir. Et pourtant, c'est une ethnie qui est minoritaire dans le pays. Mais en étant au pouvoir, ils ont récupéré tout le dynamisme économique, ils ont récupéré tout l'argent. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ce que les autres minorités, les autres ethnies reprochent, c'est finalement les Tigréens, eux, s'enrichissent, mais pas les autres ethnies. Et donc ils aimeraient remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. Alors l'Éthiopie se développe vraiment vraiment beaucoup. Et puis c'est un pays aussi qui est entouré par des pays qui eux vont très mal. Je rappelle que il y a le Soudan par exemple. Et donc c'est aussi un pays sur lequel compte la communauté internationale. Et c'est pour ça très certainement qu'on n'entend pas beaucoup de gémissements de la part des États-Unis d'Amérique ou de l'Europe. Alors il y a un peu comme toujours des communiqués. C'est pas bien, mais finalement c'est pas très poussif. Mais parce que comme dans d'autres parties du monde, on compte un petit peu sur l'allié militaire sur place pour essayer de calmer la situation. Donc on compte sur ce régime pour rester en place et pour maintenir une situation stable, ou plus ou moins stable, en tout cas avec les voisins. C'est une drôle, évidemment, de pratique politique, comme toujours, c'est une drôle de diplomatie. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement ne cesse pas, malgré les arrestations, malgré les assassinats. Les experts géopolitiques pensent que ça va même s'amplifier et que la mobilisation n'est pas prête de faire.
On sait qu'il y a des soucis économiques récemment qui sont apparus en Éthiopie. Il faut savoir que la situation elle est compliquée, puisque suite à la guerre, là, ils ont perdu l'Érythrée, hein, il y a un certain nombre d'années, et ils ont perdu avec l'Érythrée l'accès à la mer. Et dans cette partie de l'Afrique, la corne de l'Afrique, là, c'est fondamental d'avoir accès à la mer. Ils ont perdu ça. Alors bien sûr, il y a eu des négociations avec Djibouti, hein, qui doit être juste à côté. Mais grosso modo, c'est un pays qui effectivement a eu une croissance très importante. mais qui commence à faiblir. Et quand la croissance faiblit, eh ben, toutes les inégalités sociales et toutes les problématiques, notamment avec les pays autour et surtout avec l'Érythrée, refont surface, les tensions reviennent et la situation est vraiment pas stable du tout. Et ça pourrait répéter dans tous les sens. En plus, il y a effectivement le Soudan qui est juste en dessous. Donc voilà, la situation est pas stable et pas facile.
Oui, surtout que c'est un pays qui est basé sur le fédéralisme et justement sur un principe d'équité et d'égalité entre les ethnies. Et là, c'est pas du tout le cas et c'est ça qui est remis en question. On est donc sur une attaque frontale du régime, il faut le dire.
Eh ben, on va rester sur le continent africain avec les news, vous avez peut-être entendu parler, de l'élection au Gabon, puisque les résultats sont aujourd'hui connus. Officiellement, c'est le ministère de l'Intérieur gabonais qui a dit que le président sortant, Ali Bongo, avait obtenu 49,8% des voix. Il a donc gagné face à son adversaire qui en a 48,23%. Oui, il n'y a pas besoin de 50% pour gagner, puisque c'est une élection à un tour. C'est un système vraiment mal fait, les élections à un tour, puisque alors là, c'est la première fois qu'il arrive à avoir des opposants. La dernière élection, Ali Bongo, il avait lui aussi fait un chiffre entre 49 et 50, 51%. Mais en face de lui, il avait pléthore de candidats qui récupéraient des miettes. Le défaut de ces élections à un tour, c'est que une opposition ne peut exister que si elle s'unit totalement contre le personnage un peu fort. Là, ils sont arrivés à le faire. Alors, ils sont arrivés, c'est en fait Jean Ping, qui est porteur d'un projet dit alternatif à Ali Bongo. Alors, on va relativiser, c'est quelqu'un qui est issu du sérail d'Ali Bongo. Il va pas changer la donne. D'ailleurs, ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est la position de la France. On se rappelle que le pays a été dirigé par une dictature. Bon, on appelle ça un président, mais comme l'Ouzbékistan, c'est un président de façade. Dans les faits, c'est un régime totalitaire que la France a installé. C'était son papa, Omar Bongo, que la France a soutenu pendant une bonne cinquantaine d'années. Quand Omar Bongo est mort, son fils a pris la relève. Et la France a une position un petit peu ambiguë parce qu'elle n'est pas tout à fait sûre que Ali Bongo soit le bon choix. Et elle hésite à pencher pour Jean Ping, qui ferait une politique elle aussi proche de ce que veut le modèle économique prévalent aujourd'hui en Afrique vis-à-vis de la France, c'est-à-dire la France-Afrique version économique, comme on connaît. Donc, c'est pas le méchant contre le gentil, on va dire. C'est Ali Bongo, le méchant, qui est issu de tout le passé de cette famille qui dirige de manière autoritaire le pays, et quelqu'un qui n'est pas forcément porteur de tant d'espoir que ça, mais c'est le seul espoir qu'ont la population. Du coup, ils ont quand même voté massivement pour lui. Alors, quand les résultats ont été annoncés, ça a un peu explosé. Il faut dire que les différences sont faibles. Ça fait 6000 voix d'écart entre les deux candidats, ce qui est relativement faible. Alors, bien sûr, Jean Ping annonce des fraudes. Alors, il cite notamment la province du Haut-Ogooué. Ça doit se prononcer à peu près comme ça, je m'en excuse d'avance. La région dont est issue la famille Bongo. Et là, les chiffres sont affolants, puisqu'il y aurait eu, il aurait gagné à plus de 80% des suffrages et il y aurait eu quasiment 100% de participation. Alors, même si c'est la région dont il est issu, ça paraît quand un petit peu exagéré comme chiffre, mais a priori il y avait pas mal d'observateurs internationaux. Les observateurs internationaux n'ont pas vu de triche flagrante. Donc pour l'instant, on n'a pas d'écho qui disent qu'il y a des triches flagrantes. Les experts internationaux qui étaient là, les observateurs, n'ont pas dénoncé les chiffres. Du coup, la situation reste quand même un petit peu ambiguë et on a un petit peu l'habitude des fois de voir, quand on est déçu, qu'on réagit un petit peu violemment. Là, c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils sont descendus dans la capitale, dans les rues de la capitale hier soir, à Libreville. Et puis voilà, ils sont forcément battus contre l'armée, les forces de police anti-émeute, etc. Mais ils sont allés jusqu'à incendier l'Assemblée nationale. Enfin voilà, les violences ont été importantes. De même à Port-Gentil, qui est la capitale économique du pays et pas la capitale administrative. Donc voilà, alors ce matin, Jean Ping a annoncé, et c'est pareil, on n'a pas d'éléments de preuve là-dessus, on veut bien le croire, mais bon, il faudrait quand même qu'on ait un peu plus d'éléments, que son QG avait été pris d'assaut dans la nuit, été bombardé, qu'il y avait deux morts. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que la situation est compliquée, qu'il y a bien des violences, et qu'on a un opposant qui est pas loin d'avoir gagné, en tout cas d'après, même d'après les chiffres officiels, hein, contre Ali Bongo, le sortant, qui aurait gagné d'une micro avance, ce qui fait que la situation est explosive et a explosé. On va attendre quelques jours avant d'avoir un avis un petit peu définitif sur la situation, si effectivement il y a eu suffisamment de triche pour que Jean Ping puisse vraiment prévaloir d'une victoire. On n'en est pas sûr non plus, même si on aurait tous envie qu'Ali Bongo de l'extérieur, en tout cas on laisse bien évidemment les habitants du Gabon décider, mais voilà, cette image de fils de la France-Afrique, si elle pouvait disparaître, ça ferait quand même plaisir. Bon, et comme je le dis, on n'est pas sûr que le Jean Ping soit beaucoup plus intéressant comme homme politique, même s'il amène quand même un petit peu d'espoir, bien évidemment.
Alors on va partir au Venezuela, il y avait une manifestation aujourd'hui, hein, et les journalistes avaient donc décidé de se rendre au Venezuela pour couvrir cette manifestation de l'opposition, qui une manifestation qui est censée être celle de grande ampleur, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que ces manifestations de l'opposition ont parfois réussi, parfois pas vraiment, ça dépend un petit peu des appels. En tout cas, quatre journalistes se sont retrouvés dans une drôle de situation, puisque hier, à leur descente d'avion, lorsqu'on leur a demandé le but de leur voyage et qu'ils ont expliqué qu'ils étaient journalistes, ils se sont retrouvés avec des passeports saisis et puis une longue attente, tout ça pour trois d'entre eux remonter dans l'avion, tout simplement. Il y a finalement que Kejal Veillas, le correspondant de Caracol Radio, un média colombien, qui, ayant un visa de résident, a pu rester et rentrer sur le sol du Venezuela. Par contre, deux journalistes des États-Unis d'Amérique et l'envoyé spécial du Monde se sont donc fait remettre dans un avion direct, direction Bogota, hop, et vous rentrez tout ça chez vous. Alors, déjà mardi, c'est une équipe de la télé Al Jazeera qui avait été refoulée, et puis deux autres journalistes, un des États-Unis d'Amérique et un autre, deux autres de Colombie, qui avaient été déjà refoulés en début de semaine. C'est un drôle de truc, le Venezuela, avec la presse, puisque quand vous êtes journaliste étranger, vous remplissez un formulaire d'accréditation. Vous allez pour ça sur le ministère pour la communication et l'information. Vous remplissez la chose et puis les journalistes expliquent que la plupart du temps, il n'y a pas de réponse. C'est comme ça. Mais ça ne les empêche pas de rentrer dans le pays et de faire leur travail. Mais ils expliquent aussi que du coup, ils ne savent jamais bien comment ça va se passer puisque c'est une procédure qui laisse très très large. Il y a une application très large de la procédure de tu restes ou tu t'en vas. Donc là, ça leur est tombé dessus sur la procédure tu t'en vas. Mais ils n'ont pas d'explication, ils ne savent pas bien pourquoi. Évidemment, personne ne s'est excusé de les renvoyer chez eux, vous pensez bien. Et puis, il y a cette grande question de à quoi ça sert de renvoyer des journalistes étrangers du Venezuela, alors qu'il y a des agences de presse au Venezuela. Ce n'est pas un pays fermé au niveau des médias. Donc, ça n'a pas vraiment de sens, tout ça. C'est une censure complètement débile, un peu absurde. Toujours est-il que la manifestation a eu quelques soucis, puisque les manifestants ont raconté qu'ils n'avaient pas pu monter dans des bus, que ceux-ci avaient été, pour ceux qui avaient pu monter dans le bus, les bus ont avancé mais se sont retrouvés bloqués à des barrages, donc ils n'ont pas pu aller jusqu'au site. Ça nous rappelle des choses, hein, chez nous. La différence, c'est qu'en 2014, au Venezuela, il y avait eu 43 morts. C'est quand même une sacrée différence quand même aussi sur la répression place.
Là, c'était une manif du coup de la droite.
Ouais, donc, c'est les anti-chavistes. Hein, voilà.
Donc du coup, c'est une grosse différence aussi. C'est un peu comme les bonnets rouges chez nous. C'est voilà. La droite qui paye et qui organise des manifestations quand même.
Alors, effectivement, ils sont là contre Monsieur Maduro. Monsieur Maduro qui a expliqué que s'il y avait des violences dans les manifestations, de la part des manifestants évidemment, il allait emprisonner les dirigeants de l'opposition. Donc c'est une espèce de sale guerre, hein, parce que aucun des deux côtés n'est bon, il faut être assez honnête quand même là-dessus. L'opposition a demandé un référendum de révocation qui concerne Monsieur Maduro et son équipe. Ce référendum, évidemment, n'arrive pas à être mis en place puisque Monsieur Maduro fait tout pour repousser. L'idée, c'est que ça tombe plus ou moins bien par rapport aux prochaines élections pour éviter qu'il soit dessaisi. Hein, c'est ça l'idée. Donc c'est une guerre qui fait des morts, je vous l'ai dit, qui amène une répression aussi policière, ce qui est jamais bon, parce que on sait aussi que c'est une population plus globale qui en prend plein la gueule. Et puis c'est aucun des deux côtés qui est bon. C'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu du vert pourri dans les deux pommes. Le Venezuela est dans une situation économique pas très bonne. Hein. Le prix du pétrole s'est effondré. Et le pétrole, c'est ce qui ramenait les devises au pays. Sans devises, eh ben il y a une pénurie d'aliments, il y a une pénurie de médicaments. Et là, ça touche toute la société au Venezuela, ça c'est certain. Reste qu'évidemment, comme tu le dis, l'opposition se sert aussi de cette situation sociale et de ces pénuries pour essayer de ratisser large hein, de son côté. Mais c'est aussi pour ça que les plus anciennes manifestations n'avaient pas vraiment marché, parce que c'est pas forcément une opposition sur laquelle une grande majorité de population a envie de se rallier non plus. Voilà, c'est ça un peu la problématique du Venezuela aujourd'hui.
On va revenir... Non, c'est à moi. Hein.
Tout à fait, on va parler pesticides, je crois.
Oui, un tout petit mot, puisque le Conseil constitutionnel devait s'exprimer sur l'interdiction des néonicotinoïdes en France. Leur décision qui est tombée le 4 août, mais dont on a l'info aujourd'hui. Donc, c'est la numéro 2016-737-DC. Donc, elle redit bien qu'effectivement, l'interdiction de cette série branche d'insecticides est conforme à la Constitution. On a tout à fait le droit d'interdire, donc la loi est valable, ces néonicotinoïdes, hein, notamment, je rappelle, qui sont très toxiques en partie pour les abeilles, mais pour plein d'autres choses et pour nous d'ailleurs. Donc ça sera à partir du 1er septembre 2018, faut pas aller trop vite non plus, hein. On sait jamais des fois qu'on pouvait sauver la nature. Mais il y a même des possibilités de dérogation jusqu'au 1er juillet 2020, ce que vont bien sûr se dépêcher de demander les agriculteurs pollueurs et assassins. Ça, on en est sûr. Mais bon, ce qui est surprenant, c'est que dans ce qui était demandé au Conseil constitutionnel, c'était l'incongruité ou l'incohérence voulue de la loi qui interdit la commercialisation en France des néonicotinoïdes, mais qui autorise les entreprises françaises à fabriquer les néonicotinoïdes et à les exporter. Donc en gros, c'est toxique, c'est mauvais, et donc on n'en prend plus chez nous. Par contre, chez les pays qui n'ont pas de lois suffisamment bien faites pour protéger les populations, eh ben, c'est pas grave. Grosso modo, il a confirmé ça en disant qu'effectivement, il y avait une interdiction de mettre et de vendre sur le territoire français, mais pas d'exporter. Il a laissé entendre, grosso modo, enfin confirmé, que le capitalisme était plus important que l'économie. Alors certes, les entreprises capitalistes ne peuvent plus vendre en France, mais elles vont continuer de vendre à l'étranger. Donc ça, voilà, c'est grosso modo la protection de la nature, la protection des êtres vivants, des êtres humains, ça s'efface, et le respect de la planète, ça s'efface complètement devant le capitalisme, et c'est ce qu'a confirmé le Conseil constitutionnel avec cette loi hypocrite, et qui a été volontairement votée de manière hypocrite, hein, pour que l'interdiction ne concerne bien évidemment que la France, bien évidemment que la France, et ne gêne le moins possible les entreprises françaises qui fabriquent ces poisons, puisque c'est bien de ça dont il est question.
Eh ben, autre affaire du capitalisme et de l'environnement, on va parler de cette mine et de ce projet Carmichael. C'est en Australie, c'est une méga mine de charbon, un truc immense, une des plus grandes au monde. C'est un projet donc qui va se dérouler dans l'état du Queensland. Il faut rappeler que c'est un projet qui est pour l'instant validé, mais il y a une opposition, elle est multiple, et là c'est la Fondation Australienne pour la Conservation, une ONG environnementale, qui avait déposé en novembre un recours en demandant si le ministère de l'Environnement n'aurait pas dû mieux évaluer, ou tout simplement évaluer tout court, l'impact du réchauffement climatique posé par la combustion du charbon de cette mine. Et la Cour fédérale d'Australie a rejeté ce recours. C'est une mauvaise nouvelle, parce que c'est un nouveau recours qui est rejeté. Il n'y a pas très longtemps, c'est un groupe d'aborigènes qui avait déposé un recours en expliquant que Adani, le groupe indien à la base de ce projet, n'avait pas demandé son consentement pour ce projet, et la Cour fédérale avait rejeté leur recours. Donc c'est une succession comme ça d'abandon. C'est un peu rude hein, pour les groupes écolo et environnementaux en Australie, mais ils ont déclaré qu'ils ne lâcheraient rien, qu'ils allaient continuer. Alors il y a là évidemment la mine, il y a sa production, et puis il y a tout ce qui va autour, puisqu'il va y avoir près de 190 km de chemin de fer qui vont être construits pour acheminer le charbon. Il y a une extension, excusez-moi, d'un port à Bot Point, donc c'est aussi une destruction de plus. Et alors la problématique environnementale là-dessus, elle est sur la barrière de corail, bien évidemment, qui s'abîme un peu plus, alors qui s'abîme tout court déjà, mais ce genre de projet ne va pas aider, hein, ça va amplifier encore les choses. C'est ce que nous promettent et on les croit les écolos sur place. Voilà, donc bon, on se doute que la multinationale Adani est très très contente, c'est d'ailleurs ce que le groupe a déclaré dans un communiqué, mais il y a encore d'autres recours en cours, donc ben on espère qu'il y en a un qui aboutira, même si il faut le dire, l'Australie a l'air très très motivée pour que cette mine voit le jour.
Alors une grosse rubrique autour du nucléaire et de l'énergie. On va commencer par cette fameuse centrale nucléaire qui n'existe pas encore, de Hinkley Point en Angleterre, puisqu'on a appris aujourd'hui que 5 des 6 administrateurs salariés d'EDF, il y a des administrateurs qui sont à la fois administrateurs et salariés, que ces 6 personnes nagent là ont saisi la justice pour demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration d'EDF qui avait avalisé le lancement du projet de construction de ces 2 réacteurs donc de Hinkley Point aux États-Unis. Ces administrateurs estiment que le PDG du groupe, hein, Jean-Bernard Lévy, n'a pas communiqué les informations essentielles en sa possession concernant ce projet qui est très important pour l'entreprise, en tout cas en termes de finances, au moment de la réunion du conseil d'administration du 28 juillet. Et donc ils disent qu'il y a eu violation du droit de l'information des administrateurs. Donc le vote a été faussé parce qu'ils n'avaient pas toutes les informations. Ça se situe au niveau de la volonté du gouvernement britannique de faire ou pas cette centrale nucléaire. Vraisemblablement, M. Lévy était au courant que le gouvernement britannique calmait un petit peu le jeu, ralentissait un petit peu les choses, alors que lui, il avait continué de laisser courir le bruit comme quoi il fallait aller vite et que le gouvernement britannique était pressé. Effectivement, ça change un petit peu la donne sur la prise de décision, parce que la réalité laissait entendre quand même qu'en Angleterre, il y avait un petit doute quand même sur ce central, et c'était pas finalement si définitif que ça. Donc, ils protestent, ces administrateurs salariés, aussi, contre la participation du vote de plusieurs administrateurs qui sont, d'après eux, en situation de conflit d'intérêts avec l'entreprise. Alors, tout ça fait que ça va passer au tribunal de commerce de Paris, ça devrait être aux alentours du 5 septembre pour la date d'audience, et puis après bon, la justice va avancer plus ou moins vite. Alors c'est pas la première démarche hein, contre ce qui s'est passé dans EDF au sujet de ce projet de centrale nucléaire au Royaume-Uni, puisque il y a déjà un recours du comité central d'entreprise qui doit être plaidé lui le 22 septembre, recours hein, qui est porté par l'intersyndicale CGT, CGE, CFC et FO, qui estiment, à juste titre a priori, hein, quand même, que le projet est périlleux pour les finances de l'entreprise. Il faut rappeler quand même que c'est une construction de réacteurs EPR. Vous savez qu'aujourd'hui, l'EPR fabrique, quand on aura un EPR en route, en fonctionnement, ce qui est encore loin d'être le cas, hein, ces EPR vont fabriquer, ces centrales nucléaires de type EPR vont fabriquer de l'électricité dont le coût de revient est plus cher que l'éolien ou le solaire aujourd'hui, et que l'hydroélectricité. Donc, est-ce que c'est important de mettre autant de milliards, puisque là, ça coûte des milliards, des dizaines de milliards, alors que les finances de l'entreprise sont catastrophiques, hein. On sait qu'il y a des gros soucis. En plus, ils sont obligés d'absorber Areva et d'absorber la dette d'Areva. Enfin, voilà, même si l'État, c'est-à-dire vous et nous, nous sommes obligés de donner de l'argent à Areva et à EDF. Voilà, la situation est compliquée pour l'entreprise, et ce sont des pros du nucléaire qui défendent, parce que l'intersyndicale CGT Énergie, CFE, tout ça, c'est des pros nucléaires, c'est pas des écolos. Ils disent que ces centrales-là, elles mettent en danger leur entreprise. C'est ça qui est important. Ils sont pas sur une lutte écologique du tout, puisque malheureusement, ils sont pros nucléaire dans leur grande majorité, ces syndicats-là. Donc voilà, ça avance doucement pour EDF, et c'est compliqué, a priori. Donc réponse pour ces deux actions en justice au mois de septembre. Alors on va reparler un petit peu de Bure, hein, parce qu'on en avait parlé, notamment parce que le 1er août, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc était saisi d'un référé, hein, pour de la part de 8 associations et de 4 habitants de Mandre en Barrois, et qui avaient donc déclaré illégal le défrichement de 7 hectares de sorte de forêt par l'ANDRA. Donc l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, qui a pour objectif de construire à Bure Cigéo, qui est un site d'entreposement ou d'entreposage, je sais plus comment on dit, d'entreposage de déchets radioactifs pour 100 000 ans à peu près. Et respectaient même pas la loi, hein, puisqu'ils ont pris une claque dans la gueule sur ce projet-là, sur ce défrichement qui était illégal. Alors ils ont continué dans l'illégalité puisqu'ils ont construit un mur en béton de 3,7 km, ça a démarré le 7 juillet, sans autorisation d'urbanisme. Ils s'estiment au-dessus des lois, ces gens-là. Donc le jour même de l'audience du référé là du 28 juillet, un arrêté municipal a été pondu à l'arrache pour régulariser la construction du mur. Alors, le maire de Mandre qui l'a pondu n'était même pas compétent pour délivrer un tel acte administratif, qui a tout de suite donc été attaqué par les associations et les habitants. Du coup, le préfet a été obligé de retirer cet acte et de l'annuler le 9 août, mais dans la foulée, le préfet a lui-même déclaré l'autorisation du mur. C'est n'importe quoi. Ça démontre que l'ANDRA, qui est bras armé de l'État pour gérer les déchets radioactifs, respecte même pas les règles administratives, et que le préfet essaye comme il peut de soutenir ce projet-là et de faire que ça soit un peu réglo vis-à-vis de la loi, ce qui est même pas le cas. Du coup, mais il fait quand même comme il peut. C'est assez drôle finalement. Donc, il y a un recours devant le tribunal de Nancy pour contester l'arrêté préfectoral, le dernier qui est tombé, c'est-à-dire celui du préfet, qui a été pris le jour même où il avait annulé l'arrêté illégal du maire de Mandre. Enfin voilà, c'est un joli bordel. Ça nous montre vraiment que l'ANDRA et le nucléaire, grosso modo, essayent toujours de se placer au-dessus des lois. Hein, et pourtant, c'est quelque chose d'administratif et de légal et d'officiel en France et de proche de l'État, voire c'est l'État. Ben non, ils s'estiment au-dessus des lois. Et c'est relativement inquiétant parce que s'ils commencent à se situer au-dessus des lois juste pour la partie administrative, je ne vous parle pas quand il va falloir se poser des questions sur la sécurité nucléaire du site. Hein, c'est quand même très très mal parti. Voilà, de toute façon, personne n'en veut. Certes, il faut se poser des questions sur les déchets. A priori, ce qui est proposé à Cigéo, c'est quand même pas la meilleure solution pour ces déchets dont on ne sait que faire. Hein. Je vous rappelle, il faut empêcher les populations vivantes, c'est-à-dire les êtres vivants, de s'en approcher pendant 100 000 ans. 100 000 ans, il n'y a aucune société, aucune chose qui ait jamais vécu 100 000 ans. Les empires s'écrasent bien avant, les démocraties aussi. Bon, bref, c'est ingérable, ces déchets radioactifs. Alors en contrepartie, je vais vous démontrer que cet été il y a eu pas mal d'avancées puisqu'on a eu le Costa Rica. Alors Costa Rica, c'est un petit pays entre le Nicaragua et le Panama. Ils sont connus, hein, pour faire du chocolat, du café, vous le voyez des fois sur le café, pour sa belle nature et ses milliers de touristes qui visitent chaque année ce pays. Et on le sait moins qu'ils ont fait d'énormes efforts sur l'environnement. Alors ils ont fait d'énormes efforts aussi sur l'éducation, hein, le Costa Rica. Ils ont arrêté leur armée, par exemple, du jour au lendemain pour mettre tout l'argent dans l'éducation. Enfin, il y a plein d'exemples, hein, positifs sur le Costa Rica. Donc là, ils ont décidé de faire des efforts sur l'énergie. Alors avant de faire ces efforts, ils étaient 100% en énergie non renouvelable, énergie pour fabriquer de l'électricité. Ils avaient des générateurs. Cet été, pour la première fois, ils ont tourné pendant 113 jours, donc un peu plus de 3 mois, en 100% renouvelable pour fabriquer de l'électricité. Donc c'est pas mal. Alors faut dire qu'il y a eu un gros effort. Ils ont construit la plus grande centrale hydroélectrique d'Amérique centrale. Et puis ils ont mis plein d'autres systèmes en place. Donc voilà, c'est le troisième pays le plus écologique du monde, derrière la Norvège et la Suède, pour fabriquer de l'électricité. Donc c'est quand même plutôt positif. Ça démontre que tout est possible. On rappelle qu'en France, on est entre 16 et 19%, les chiffres divergent, d'énergie renouvelable dans le mix pour fabriquer de l'énergie électrique, même si Radio Canu est 100% renouvelable. On vous le rappelle, vous écoutez de l'électricité et de la radio bio, faites attention. Alors, autre exemple, c'est l'Écosse qui l'a donné, un peu plus près de nous. Alors, ils ont installé pas mal d'éoliennes en Écosse. Les panneaux solaires, c'est moins évident en Écosse. Il pleut souvent, tout ça, c'est pas forcément les meilleures conditions, même si il y en a d'installer quand même. Mais ils ont installé pas mal d'éoliennes et il y a eu un phénomène climatique important, un peu négatif, on va dire, le 7 août, c'est qu'ils ont eu une mini tempête, beaucoup de vent. Et ben, grâce à ce vent, ils ont fabriqué 106% des besoins énergétiques de l'Écosse ce dimanche 7 août. Donc ils en ont fabriqué trop, qu'ils ont dû soit stocker, soit revendre ou exporter à côté. Mais ça démontre que effectivement les efforts qu'ils ont faits commencent à percer. Alors certes, comme le dit le directeur du WWF en Écosse, c'est le mois d'août et c'est un dimanche, hein, donc c'est un peu plus facile aussi de produire 100% d'électricité renouvelable. Mais ça, ils n'y étaient jamais arrivés encore. Donc c'est une vraie progression. L'Écosse, c'est vraiment un pays qui fait beaucoup d'efforts là-dessus. Alors c'est pas le meilleur pays d'Europe. On rappelle, c'est la Suède. Hein, 52,6% de l'énergie électrique vient des renouvelables, mais ça progresse beaucoup. Alors ça progresse beaucoup, on rappelle que le Portugal, pendant 4 jours ils ont été 100% renouvelables cet été, enfin voilà, il y a plein de choses qui progressent, avec la France qui régresse, hein, ou qui progresse lentement. Je ne sais pas si on peut appeler ça un progrès finalement, quand on va tellement lentement, alors que les autres vont 15 ou 20, 50, 100 fois, 1000 fois plus vite que nous. Autre exemple, Tahiti. Alors c'est pareil, pas mal de choses ont été faites à Tahiti pour essayer de s'affranchir du gasoil, hein, qui était la première source de production d'électricité dans l'île. Et ben aujourd'hui, en tout cas de janvier à juin, ils étaient à 45,5% de l'électricité produite de manière renouvelable. Donc Tahiti, une petite île comme ça, fait mieux que la France. On peut le dire que finalement la France est vraiment ridicule sur l'énergie, la production de l'énergie électrique depuis déjà pas mal d'années, mais alors ces 5 dernières années, ça s'est accéléré. Alors juste pour redonner sur les chiffres en Europe, tous les pays, les 28 pays confondus, il y a au niveau production d'énergie électrique toujours 29,2% de renouvelables, c'est la première source, hein, en Europe, c'est le renouvelable. Le deuxième, c'est le nucléaire avec 27,5%. Le troisième, c'est le charbon et ses dérivés, hein, 25,3%. Le quatrième, c'est le gaz avec 15,4%. Et le dernier, c'est le pétrole et les dérivés avec 1,8%. C'est vraiment à la marge. Donc les progrès étaient énormes en Europe. Hein, on rappelle qu'en moins de 10 ans, sur l'éolien, on est passé de 59 TWh à 253 TWh. Donc vous essayez de multiplier, ça fait à peu près 5 fois plus, comme ça, de tête. Donc il y a un énorme progrès en Europe, mais pas en France.
Eh bien, je vais vous parler un petit peu de Lactalis.
Lactalis et le lait.
Donc vous savez, Laurent est tout emballé.
Ben, ils sont contents, ils ont tous signé un accord, ils disent tout va bien, ils nous achètent une misère, mais plus grande.
C'est ça.
Notre lait.
290 euros la tonne. Moi, j'avais entendu dire qu'en dessous de 300, ils ne pouvaient pas vivre. Bon.
Ils vivront pas.
Alors, on peut quand même remarquer que, pour une fois, les négociations ont abouti, hein, parce qu'il y avait eu une période où les actions avaient duré longtemps, les négociations aussi longtemps, et tout ça n'avait abouti à rien. Donc là, ça aboutit un petit peu. On rappellera que c'était quand même un mouvement porté par la FNSEA, la Confédération Paysanne.
Il y a participé un peu quand même.
Alors, la conf elle a dit, expliquait qu'elle soutenait les
producteurs.
Les producteurs qui étaient en mobilisation, mais pas la FNSEA.
Ah, et quand même, heureusement. Hein.
Et puis la Confédération Paysanne met toujours en avant la même problématique, c'est qu'il y a une trop grande production et que c'est ça aussi qu'il faut revoir. Chose sur laquelle la FNSEA n'a pas trop envie d'intervenir, il faut quand même le dire. Ça a aussi rappelé à Lactalis qu'il y a un PDG que personne ne connaît, que les salariés n'ont jamais vu. Il y avait même eu des avis, des recherches, hein, des petites... des gens de la FNSEA qui avaient fait ça, c'était plutôt drôle. Voilà, Emmanuel Beignet, personne ne sait ce qu'il sait. Hein.
Mais il est discret, il est discret.
Ah ben là, c'est plus que ça. Il paraît très même qu'il serait un petit peu paranoïaque aussi. Il faut se rappeler que Lactalis, c'est une entreprise familiale depuis sa création en 1933 à Laval. Il y a une holding belge qui permet à la famille de gérer tout ça. C'est un groupe très fermé qui ne publie pas ses comptes. c'est pas bien ce qui s'y passe. En tout cas, c'est un groupe, une multinationale maintenant, qui s'étend un petit peu de partout, qui n'a cessé de racheter des concurrents, parfois avec des OPA très hostiles, comme avec le groupe Parmalat en Italie. Lactalis, c'est dans 43 pays, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas le chiffre là exactement sous les yeux. C'est 15 000 salariés en France, 75 000 dans le monde, c'est un truc de dingue, hein, Lactalis. C'est pour ça qu'eux, en n'aimant pas la FNSEA, j'ai pas le mal à attaquer Lactalis quand même, et en leur disant allez-y. C'est une énorme multinationale, et c'est vrai que moi, quand il y a eu le mouvement qui s'est mis en place, je me suis demandé pourquoi la FNSEA ne faisait pas un chantage médiatique, hein, à Lactalis, en rappelant qu'en 2017 allait apparaître une nouvelle petite chose, c'est l'étiquetage obligatoire l'origine des viandes et du lait dans les produits transformés. Le Conseil d'État a rendu un avis favorable le 26 juillet dernier, donc maintenant il faut mettre en forme évidemment tout ça. Mais l'idée, c'est qu'au 1er janvier 2017, donc ces produits transformés à base de viande et de lait devront afficher le pays d'origine pour chaque ingrédient pesant plus de 50% du poids dans le produit transformé.
Alors déjà, ça limite beaucoup d'ingrédients, hein, 50%. Hein.
Oui, mais l'idée, c'est que tu arrives à savoir d'où vient quand même ta viande et ton lait.
Mais ceux qui ont, qui achètent des produits transformés, un gratin dauphinois par exemple, typique, hein, pas un gratin dauphinois, un haché parmentier là où il y a de la viande et des pommes de terre et tout ça, ils auront aucune information puisque aucun élément ne dépassera les 50%.
Alors, sur la viande, il faut l'espérer, sinon c'est plus du haché parmentier.
Si, mais
ça s'appellera de la purée avec un truc en dessous.
C'est un peu ça.
Mais c'est vrai qu'après sur le fromage, sur d'autres choses, voilà, ça va apparaître et c'est là où
vous verrez que le camembert.
Au lait pasteurisé,
et ben déjà, il faut prendre un truc pasteurisé, et qu'en plus le lait il va venir d'ailleurs.
On est sûr de rien parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une belle production
française,
en France, et que la France exporte aussi beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un argument aussi pour dire à Lactalis, il y a quoi dans tes produits ? Alors évidemment, Lactalis va nous répondre, c'est du lait français et nous en sommes très fiers. Sauf que on sait que la mondialisation ça va très vite et qu'on n'est pas tout à fait sûr que dans tous les produits Lactalis ça soit le cas. Mais en tout cas, ceux qui râlent le plus, c'est la DEPAL, le syndicat qui représente les entreprises de produits transformés, mais aussi la Fédération des industries de la charcuterie. Ça, c'est un syndicat corporatiste bien râleur. Et puis la Fédération nationale des industries laitières, qui ne voit dans cet étiquetage qu'un côté protectionniste de l'affaire.
Alors, c'est sûrement vrai.
C'est vrai.
Mais ils sont contre toute information aux consommateurs.
C'est surtout ça le principal.
Voilà.
Donc, c'est ça qui les gêne, hein, quand même, ces syndicats industriels de l'agroalimentaire. C'est que la transparence, ils n'en veulent pas, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est qu'après, il va falloir tout étiqueter, et ça, ils rognent, hein, là-dessus, quand même.
Ouais.
Ils veulent pas bien. Ils expliquent pourtant, hein, que c'est pas la transparence, hein, qui gêne, mais bien le côté protectionniste de la mesure. Bon, ça fait un petit peu rigoler. En même temps, on sait aussi que d'autres pays vont suivre, hein, puisque l'Union européenne est favorable à ce principe, c'est-à-dire une impulsion, hein, qui vient de l'Union européenne, ce qui voudrait dire que d'autres produits pourraient d'un seul coup découvrir qu'ils ont du lait français dans leur fromage. Alors on se doute qu'il n'est peut-être pas dans certaines mozzarella de qualité locale et tout ça, mais ça peut amener quelques surprises. Et là, c'est vrai que d'un seul coup, l'agroalimentaire français, qui pour beaucoup sont aussi des multinationales, dont Lactalis, vont être un peu emmerdés de vendre du lait français à peut-être d'autres pays, voyez, si jamais tout ça, c'est ça la mondialisation, ça marche dans tous les sens. Mais je trouvais que moi c'était un argument peut-être aussi à mettre en la balance pour Lactalis, c'est qu'est-ce que tu fais avec notre lait français? Bon, c'est pas venu du tout sur le tapis. La FNSEA a d'autres méthodes de négociation. On sait aussi que la FNSEA est très contente quand elle peut exporter. Je vous rappelle que quand la Russie a eu des sanctions, les producteurs adhérents à la FNSEA ont beaucoup crié parce qu'ils pouvaient plus vendre leurs pommes. Donc on sait qu'on n'est pas sur du petit agriculteur qui est content d'avoir une coopérative pour vendre du lait français bu par des habitants en France. On sait aussi que la FNSEA sont de grands propriétaires qui, pour certains, n'ont pas mis des bottes et ne sont pas allés dans des champs depuis bien bien longtemps. On sait aussi qu'à la FNSEA, certains patrons agricoles sont aussi présents dans la filière agroalimentaire. C'est aussi pour ça que certains arguments ne sont pas mis sur la table. Enfin voilà, on sait, il y a le président de la Fédération nationale bovine, c'est une des branches de la FNSEA, spécial bovin, qui a expliqué aujourd'hui que les producteurs allaient s'en prendre à Carrefour. C'est la nouvelle idée, c'est attaquer Carrefour et de faire comme avec Lactalis en leur disant vous achetez pas assez cher notre viande. Bon, ben là c'est un système tout entier, peut-être qu'il faut remettre en question. Hein, c'est le fait de vendre à l'agroalimentaire et de vendre au supermarché, à la grande distribution. C'est un système particulier. On sait très bien que les agriculteurs n'arrivent pas à faire le poids. Il faut aller plus loin que juste aller étiqueter, faire du stickage, comme on dit, dans les supermarchés pour interpeller les consommateurs. Là, nous, on peut bien évidemment intervenir, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que c'est un système qu'il faut casser et il faut qu'eux-mêmes se remettent en question là-dessus. Et il y a des syndicats agricoles qui le font, qui appellent leurs adhérents à suivre d'autres méthodes ou à rentrer dans d'autres processus. C'est pas bien le cas de la FNSEA et tant qu'on en reste à ce principe industriel, bah, évidemment, les prix sont plutôt à tendance à aller vers le bas.
Voilà, puis tu disais que ces industriels disaient que c'était du protectionnisme. On rappelle que si on se place du point de vue environnemental, le seul moyen de limiter effectivement le nombre de kilomètres faits par les produits, c'est ce protectionnisme, pas du protectionnisme en tant que tel, c'est de mettre l'origine de, et donc là de mettre que c'est du lait français. Et c'est pas du fascisme, du nationalisme et tout ça. C'est que c'est le seul moyen pour l'instant qui existe, parce qu'ils ont toujours refusé, ces gens, de mettre des vraies mesures. Non pas nationaliste, mais localiste. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, un produit ne doit pas faire plus de 100 km. C'est à peu près ce qui est accepté dans les études environnementales. Ne doit pas mettre plus de 100 km. Alors, effectivement, quand on habite proche d'une frontière, 100 km, ça peut aller dans le pays d'à côté, ça ne serait pas grave. Mais ils ont toujours refusé de mettre la distance parcourue par les produits, parce que c'est ça qui est important. C'est pas que le lait, quand on habite en Bretagne, si le lait il vient des Pyrénées, par exemple, c'est une aberration. Il faut qu'ils viennent de la région à côté. Sauf que c'est le seul moyen qu'on a de limiter ces distances en mettant l'origine du pays, puisqu'ils ont refusé, ils ont toujours refusé de mettre l'origine kilométrique. Hein, parce que alors là, on résoudrait tous les problèmes. Il y aurait aucun problème de nationalisme, de dénoncer tous ces trucs protectionnistes. Non, ce serait juste une mesure environnementale. Et on rappelle que ces mêmes professionnels, ils sont opposés à l'étiquetage évident de la dangerosité, de l'impact négatif sur la santé des produits, hein, où il y avait des gros trucs rouges à mettre, etc. Ils s'y sont opposés. Donc ils nous disent pas, qu'ils ne trouvent pas des excuses. En fait, ils s'opposent totalement à la transparence sur les produits. Et c'est de ça dont il est question et pas d'autre chose. Après, ils peuvent utiliser tous les argumentaires qu'ils veulent. On sait très bien que c'est totalement faux. Tu vas continuer avec nous parler un petit peu de Lyon.
Ouais, on va donner quelques infos. Alors, on a appris hier mercredi la décision de notre bel empereur Gérard et Monsieur Collomb, après une décision mardi soir, le défilé de la Biennale de la Danse, qui doit se dérouler le 18 septembre prochain, va se déplacer au stade de Gerland. Donc
ils vont défiler en rond dans le stade.
Je sais pas bien. Ils ont jusqu'au 18 septembre pour trouver une solution. Alors on nous dit que c'était évidemment des problématiques de sécurité qui ont imposé cette décision, à la fois évidemment des spectateurs sur les côtés et puis du final qui se déroule place Bellecour, et qu'il aurait peut-être fallu faire une fan zone pour protéger tout le monde, et que la ville de Lyon n'en a ni les moyens humains ni les moyens financiers, a-t-on appris. Certes, mais c'est bizarre parce que c'est toujours bizarre ces décisions qui sont prises un peu au dernier moment.
Oui, alors que la fête des Lumières ne va pas être confinée dans le parc de Gerland, et pourtant il y aura beaucoup plus de monde dans les rues.
Effectivement, la fête des Lumières est donc bien maintenue pour cet hiver 2016. Alors il y a le FN avec la voix de Monsieur Boudot, hein, vous avez déjà parlé de lui ici. Le FN demande l'annulation tout simplement de la fête des Lumières pour des raisons de sécurité. Bon, Monsieur Collomb a décidé que sa fête des Lumières aurait bien lieu cette année. Il faut dire que là, il y a quand même des enjeux financiers, économiques très importants pour la ville. Donc Gérard a décidé de maintenir, mais en même temps, voilà, annuler le défilé, maintenir la fête des Lumières, c'est toujours un petit peu bizarre. Et puis on a appris que la piscine de Gerland allait fermer. Alors bon, cette piscine de Gerland, elle est pourrie, il faut le dire.
Enfin, elle est en mauvais état, oui.
Ouais, mais c'est ça, le mot pourri, ça veut dire en mauvais état. Simplement, je trouve que vraiment, elle est pourrie. Non, elle est vieillotte, il y a les problèmes d'hygiène. Elle a pris un certain coup de vieux, donc certes, il fallait la remettre en état. Simplement, là, elle va être fermée. Je vous rappelle qu'au niveau de Gerland, c'est le Loup Rugby hein, qui s'installe, et que donc la Ville de Lyon a aussi décidé que c'était plus trop de sa responsabilité, cette histoire de piscine, ça regardait le Loup. Plus de piscine à Gerland, la problématique, c'est qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein, la ville de
Alors
Lyon,
déjà que Lyon, c'est une ville avec très peu de piscines.
Ouais, puisque beaucoup sont des piscines qui sont utilisées par les scolaires. Et donc,
ah oui, il n'y a presque pas d'heures d'ouverture.
Il y a peu d'heures d'ouverture, effectivement, pour les habitants.
Je crois qu'il y a plus de piscines à Villeurbanne qu'à Lyon.
Alors écoute, nous regarderons pour la semaine prochaine, on ira calculer ça. Mais enfin, effectivement, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de piscines, donc c'est une piscine de plus qui ferme dans un quartier qu'on avait peut-être aussi besoin. Donc tout ça semble malgré tout bien arrangé Gérard. Gérard qui était interpellé cette semaine une nouvelle fois par le collectif de parents d'élèves de l'école Michel Servais. C'est sur le quartier de la radio, c'est sur le premier arrondissement.
Ah oui, ils sont à l'entrée côté Rhône du tunnel de la Croix-Rousse. Avec donc des cours de récréation qui respirent les gaz d'échappement.
C'est ça. Alors il y a une étude par R. Rhône-Alpes qui a révélé que la circulation automobile était en cause dans cette pollution. Et ça faisait un moment que les parents demandaient de régler ces problèmes de pollution, d'avoir un certain nombre de dispositifs. Hier, les parents sont allés devant l'hôtel de ville. Trois d'entre eux ont été finalement reçus, mais par des chargés de mission. Donc j'imagine qu'ils en espéraient un petit peu plus. C'est quand même aussi à la métropole de prendre en charge ce dossier, il me semble. Enfin bon, là aussi, ils ont du mal à rencontrer des personnes et des élus. Il y a des aménagements qui ont été faits pendant l'été. Ce qui est intéressant, c'est que les parents l'ont appris dans la presse. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été informés. Le collectif n'a même pas été informé des modifications, sauf que ces modifications sont parfois un peu bizarres. Alors, il y a eu des tas de choses qui ont tenté d'être faites. Des tas de choses. J'exagère un petit peu, je vais me calmer. Alors, il y a des classes qui ont été déplacées ailleurs dans le bâtiment pour éviter d'être trop près de la pollution. Le truc, c'est que c'est pas forcément des lieux de classe à la base, donc ce qui fait qu'il y a des conditions d'accueil pour les enseignants et les élèves qui, a priori, sont pourris. Je vais maintenir mon mot pourri, si tu veux bien, ça va être le mot de cette chronique. Et puis, il y a eu apparemment des systèmes de régulation d'air dans une salle. Simplement, elle donne sur une des cours qui elle-même est polluée. Donc on tourne un petit peu en rond. Et puis, une des cours qui a été fermée. Il y a trois cours, il y en a une qui a été fermée, donc tout le monde se plaint de l'exiguïté de la chose quand même. Bon, on espère que le collectif Stop les gaz va y arriver, va enfin se faire entendre. On parle quand même de pollution et d'enfants.
Ouais, non mais de toute façon, l'aberration, ça a été la rénovation du tunnel de la Croix-Rousse, faire rentrer une autoroute, deux fois deux voies, quatre voies de circulation en plein centre-ville. C'était pas la bonne idée. Il y avait plein de projets alternatifs. On sait très bien qu'il faut détourner la voiture des centres-villes, des villes d'ailleurs, et mettre des distributions alternatives, des métros, des bus, des tramways, des vélos, des piétons, tout ce que vous voulez. Et Gérard Collomb, en tant qu'amoureux de la pollution et de la voiture, il n'a pas voulu toucher au tunnel de la Croix-Rousse. Donc la rénovation n'a fait que maintenir l'excessif nombre de voitures et l'excessive pollution. C'est essentiellement du pendulaire, c'est-à-dire des gens qui choisissent d'habiter hors de Lyon parce que c'est mieux, c'est moins pollué, et qui viennent à Lyon pour travailler et qui donc amènent leur pollution. C'est une attitude assez colonialiste dans l'esprit, même si ce n'est pas une colonisation, mais voilà, de mecs qui refusent la pollution et qui l'amènent chez les autres. C'est assez négatif. Mais bon, Gérard Collomb est ami de l'automobile. On va faire un petit tour au Brésil, puisqu'on a appris que maintenant c'est officiel, Dilma Rousseff a été destituée, donc il lui fallait les deux tiers des votants, et ils ont voté. Elle a essayé de se battre comme elle a pu devant le Sénat. Soi-disant, donc on rappelle qu'elle aurait maquillé les comptes du budget avant l'élection pour son deuxième mandat. Même si c'était vrai, ça nécessitait et ne demandait pas forcément autant de réactions, surtout en sachant que tous les gens qui l'attaquent sont corrompus, et donc la corruption c'est quand même un peu plus important que de pas donner l'intégralité du budget quand on se présente à une élection. Mais Voilà. Alors, ce qu'on notera quand même, c'est l'état du Brésil qui est catastrophique. Faut dire que Dilma Rousseff, à travers le Parti des Travailleurs, s'est alliée avec ceux qui l'accusent aujourd'hui, hein, puisque c'est ses anciens et actuels alliés, puisqu'ils n'ont pas rompu toutes les alliances, du pire un peu de la politique au Brésil, qui l'attaque. Alors, on notera qu'elle s'est alliée, par exemple, à Paulo Maluf, qui est leader du Parti Progressiste, hein, héritier de l'Arena. Alors, l'Arena, c'était le parti au pouvoir durant la junte militaire, qui a été impliqué dans moult affaires de corruption. Elle s'est alliée aussi à Fernando Collor de Mello, président de 90 à 92, et destitué pour corruption, lui. Pour corruption, hein, en septembre 92. Plein d'autres partis aussi, des partis notamment fondamentalistes évangéliques, et surtout, elle s'est alliée avec le PMDB, le Parti du Mouvement Démocratique Brésilien, qui lui aussi est pas très clean. Du coup, l'occasion de sa destitution aurait pu être une occasion de faire une autocritique pour le Parti des Travailleurs et de rompre ses alliances un peu contre nature avec ces gens qui ne l'ont pas vraiment soutenu et puis qui sont tout sauf respectables. Et ben malheureusement, c'est pas le cas. Le parti continue de s'allier avec ces gens-là pour gagner des élections, certes, mais ironie un petit peu ce qu'était le Parti des Travailleurs, hein, puisque du coup, ce sont des partis qui sont plutôt proches du patronat, proches de la bourgeoisie, qui sont pas du tout les mêmes électeurs. Et voilà, et du coup, voilà, elle se fait destituer par ses ennemis et qui reste ses alliés, puisque dans les prochaines élections, les alliances, comme je l'ai déjà dit, perdurent. Alors il y a un petit espoir quand même, puisqu'il y a un mouvement qui est né qui s'appelle Dehors Temer. Alors Temer, hein, c'est le vice-président qui est poursuivi pour corruption, hein, mais qui a pris la place de Dilma Rousseff et qui était donc son allié, son vice-président, et qui lui a donc planté un couteau dans le dos. Elle le savait avant, elle a choisi de faire ça. Écoute, elle a quelque part, hein, ce qu'elle mérite aussi, hein, ses alliances avec ses partis qui sont tous offrés respectables, se sont retournés contre elle. Mais donc, ce que je disais, il y a ce mouvement Dehors Temer qui commence à se mettre en place. Les prochaines élections municipales qui vont arriver très bientôt, ça va être peut-être l'occasion des gens de voter, d'arrêter de voter pour le Parti des Travailleurs, mais pour d'autres partis plus à gauche, comme le Parti du Socialisme et de la Liberté, le Parti Socialiste Unifié des Travailleurs, peut-être pour les communistes, voilà, qui montrent une vraie opposition un peu plus constructive et moins corrompue que ce qu'a fait finalement le Parti des Travailleurs. C'est triste, hein, parce que c'était une belle histoire, le Parti des Travailleurs au Brésil, et ça se termine par des compromissions, par des alliances pourries et par la destitution donc de Dilma Rousseff, attaquée par des gens qui sont largement pires qu'elle. Mais voilà, elle n'est pas non plus blanche, on va dire, de toute faute. Tu termines avec ?
Allez, ouais, puisque je peux encore en placer une, je vais en
la
placer
pomme.
Une avec la pomme Apple. Sur souris de plaisir. La pomme, c'est bon. Eh ben ouais, la pomme, elle s'est fait bouffer par la Commission européenne qui a décidé qu'Apple allait devoir rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros. Ça nous dit dans le communiqué, la Commission européenne a conclu que l'Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux indus pour un montant de 13 milliards d'euros. L'Irlande doit maintenant récupérer les impôts impayés par Apple sur son territoire entre 2003 et 2014, excusez-moi, à savoir 13 milliards d'euros plus les intérêts. Ah ouais, plus les intérêts, hein, faut pas les oublier. Les États membres ne peuvent accorder des avantages fiscaux à certaines entreprises, triées sur le volet. Cette pratique est illégale. Tout ça, donc, la Commission européenne a frappé fort. C'est une somme importante, 13 milliards d'euros. C'était jamais arrivé dans l'histoire des aides européennes. Alors, le gouvernement irlandais s'est offusqué tout de suite en disant. Comment ça? Mais non, nous on est très bien, et puis Apple c'est très bien, bon je caricature un peu, mais l'idée est là. 13 milliards d'euros quand même. Ouais. Comme tu dirais, quelque part, c'est notre pognon.
Ouais, ouais quelque part, Apple c'est pas le nôtre. Hein.
Ah non, mais les 13 milliards, si ça peut se servir à quelque chose et à d'autres aides, écoute, ça serait bien de pouvoir les récupérer.
Ouais, bon après un jour l'Europe aura une politique fiscale... à peu près identique dans tous les pays, en tout cas sur les entreprises.
Mais oui, mais l'Irlande
ça évitera le dumping social.
Se refait là-dessus,
hein. Ouais, le dumping social de l'Irlande est quand même difficile pour les autres. Du coup, c'est dommage. Mais c'est une belle amende qui nous fait plaisir.
Ouais. Voilà. Donc, souriez. 13 milliards. On parle, moi je suis toujours épartée hein, quand même qu'on puisse parler en milliards et pas simplement en millions d'euros, parce que déjà 13 millions d'euros c'est une petite somme, qui ne représente rien à l'échelle d'Apple, je vous l'accorde. Mais parler de 13 milliards d'euros, c'est quand même toujours très impressionnant. Même pour des multinationales.
Eh bien, ce sera la conclusion de ce Canu Info de ce 1er septembre 2016.
Nous étions donc jeudi.
Jeudi. Ça bien noté. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, 19h-20h, pour le prochain Canu Info du jeudi, et sûrement la semaine prochaine pour le retour d'autres équipes du Canu Info qui, pour l'instant, sont plutôt absentes. Mais peut-être, je vous incite quand même à écouter, essayer d'écouter demain, 19h, pour vérifier si l'équipe du vendredi n'est pas déjà rentrée, puisque nous n'avons pas de nouvelles. Ils seront peut-être là. Et voilà, je vous rappelle qu'il y a quelques mobilisations qui se mettent en place pour les profs qui luttent contre la réforme du collège. Je crois que c'est le 7 septembre, la semaine prochaine, qui est une journée de mobilisation, peut-être un peu plus qu'une journée. Et il y a une mobilisation qui se met en place aussi le 15 septembre contre la loi qui est déjà passée, la loi pourri travail.
Ouais, des manifestations aussi qui auront lieu le 27 et le 28 septembre, c'est à Bobigny, je sais, c'est loin, il faut y aller. Ouais. Mais c'est en soutien aux cégétistes qui sont accusés d'avoir arraché une chemise un boss d'Air France, rappelez-vous. Il faut savoir que hier, Vincent Martinez, délégué CGT, a reçu sa lettre de licenciement. Il n'est pas le seul. Ils sont 5 hein, concernés par cette affaire à se retrouver devant le tribunal de Bobigny. Donc voilà, c'est des manifestations. Et puis, vous avez peut-être aussi entendu parler des dockers CGT qui ont fait du bruit aujourd'hui, qui sont mis en grève, qui ont fait du blocage au port du Havre. Pourquoi ? Parce que deux de leurs camarades ont été arrêtés au petit matin hier.
Ils ont été suite des manifestations de la loi travail.
Voilà, du cas, c'est suite à ils auraient commis des violences lors de la manifestation du 14 juin dernier. Ils ont été arrêtés au petit matin. Moi, ce que j'ai quand même bien retenu de cette affaire, c'est que comme le fait remarquer l'UMA sur son site internet, ils auraient pu simplement être convoqués, hein, les deux dockers. C'était pas la peine d'aller les chercher au petit matin. Et puis c'est intervenu cette interpellation le jour où Philippe Martinez était au Havre pour assister à une assemblée générale de rentrée. C'est rigolo, comme tout ça se croise bien et comme tout ça est bien fait quand même.
Allez, la lutte continue.
Ciao, ciao.
Bye, bye.